Mission Métal, le podcast de la mission locale avec la Rodia et Sparse Magazine.
Que paradoxalement, le public métal, c'est les gens les plus bienveillants du monde. C'est toujours dans les concerts métal où j'ai rencontré les gens les plus sympas, les gens les plus gentils, où il y a du partage.
Franchement, tu connais personne dans le public et en fait, au final, tu ressors, tu t'es fait plein d'amis. Ça, c'est cool.
Mission métal.
Mosh pit, zone où les gens se bousculent. Headbang, secouer la tête en rythme. Wall of death, foule séparée qui se rentre dedans. Circle pit, foule qui court en cercle.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit trois invités, Void, Laurent et Johan du groupe de Reims Inward, un groupe de black metal composé de 5 membres qui a débuté en 2019, qui a sorti son dernier album The Pellcord en 2025 et qui se distingue par les screams incroyables de son chanteur.
Des mecs cool, humbles, détendus, qui ont mis tout le monde à l'aise pendant le Bezac Metal Fest en mars dernier à la Rodia.
On a vu que les genres musicaux qui vous décrivaient étaient assez vastes. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous parle comme genre musicaux par rapport à votre musique ?
Qu'est-ce qui nous parle nous ou est-ce que comment on définirait nous notre musique plus particulièrement ? On a mis du temps aussi nous à déterminer exactement ce qu'on faisait, tout simplement parce que des débuts du groupe à maintenant, notre style a évolué. Et pour simplifier, maintenant on fait du deathcore mélodique.
Ouais,
simplifié.
C'est un peu ça.
Vous avez des inspirations en groupe qui auraient pu vous inspirer ou vous donner envie de créer quelque chose en particulier ?
Je vais laisser Yann répondre parce que c'est le principal compositeur du groupe, ici.
Alors,
présent.
Moi, mon groupe préféré, enfin, ça ne l'est plus maintenant, mais ça l'a été pendant très longtemps, c'est Machine Head. Donc j'étais à fond dans Machine Head dès le milieu des années 90. Puis après, quand le metalcore est arrivé avec des groupes comme Azalea Dying, Trivium, God Forbid, qui est bon. Certains groupes ont complètement disparu, mais c'est vraiment mes plus grosses influences.
On a vu que depuis 2021, vous avez sorti un album par an, vous êtes motivé. Comment vous faites pour suivre ?
Alors oui, on est motivé, mais on n'a pas sorti un album par an. On a fait une sortie par an.
Oui.
Voilà. Et effectivement, en 2020. Ouais, on a fait des sorties différentes. On a fait une première démo 3 titres qu'on a sorti dès 2021.
Ouais.
En 2022, on a sorti un single 2 titres. En 2023, on a sorti un EP 5 titres. Et 2024-2025, on a sorti un single sur chaque année. Un en septembre et un en janvier. Et on l'a fait tout simplement parce que dans le monde actuel des réseaux sociaux et de tout ça, bah, il faut faire des sorties régulières, sinon tout le monde t'oublie en moins d'un mois.
Qu'est-ce qui vous a réunis tous ensemble en tant que groupe ? Autour de cette musique qu'on peut dire extrême, et pourquoi ? Comment est-ce que c'est passé ?
C'est l'amour des petits chats.
Ah,
ouais, l'amour des petits chatons.
Mais t'aimes pas les chats, t'aimes pas les chats, toi t'as pas de cœur, toi.
Putain.
Non,
c'est l'envie de faire de la musique principalement au début.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça vous procure de jouer sur scène ?
Ah, c'est difficile à répondre, ça. C'est difficile à répondre,
c'est extrêmement. Ça dépend de l'endroit. Ça dépend du lieu.
Ça dépend des conditions, parce que ça peut être extrêmement stressant si les conditions sont... Ou si on n'est pas sûr de nous, s'il y a des trucs qui peuvent merder. Nous, maintenant, en quelques années, on a fait énormément d'investissements techniques pour être un groupe amateur, mais qui joue de manière professionnelle. Et plus on a de technique, plus on a de chances que ça merde, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il y a toujours ce truc-là dans la tête. On a tout fait pour que ça fonctionne bien. Maintenant, on est très à l'aise sur scène, mais on sait jamais ce qui peut arriver.
Ouais.
Après toi, pour répondre à la question plus finement, qu'est-ce que ça te fait d'être sur scène ?
Moi, c'est un exutoire. J'ai besoin de ça à titre perso.
Je pense que Karim, notre bassiste, dirait la même chose.
Ouais.
Généralement, quand on lui pose la question, il dit qu'il vit la musique et qu'il la vit sur scène. Et vous verrez au concert ce soir.
Vous
rendrez compte assez vite s'il n'est pas là, mais parce qu'il n'aime pas les interviews.
Je mets au défi d'être musicien de bouger autant.
Ouais, n'importe quel autre musicien que de bouger autant. Ouais. Et voilà, moi sur scène, je suis extrêmement concentré, parce que je suis le batteur, et même si maintenant, avant on disait le batteur se plante, tout le groupe se plante. C'est plus vraiment le cas dans notre configuration, parce qu'on a des garde-fous qui font que même si moi je me trompe, ils continueront, et ce sera à moi de rattraper. Mais du coup, je suis très concentré, quand j'arrive à me lâcher un petit peu, pas toujours, c'est vraiment un kiff. Le plus important, je crois que c'est la communion avec le public. Quand on est dans une salle où il y a des gens qui sont là pour nous, ouais. Ce qui arrive de plus en plus souvent, ça touche un truc quand même qui est très particulier.
Ça doit être dingue. Ouais.
Ouais. Ouais. L'énergie qu'on nous donne, c'est de l'énergie qu'on rend.
Ouais.
Si on n'a rien en face, c'est plus compliqué.
Mais ça nous est arrivé.
Ça nous arrive plusieurs fois, évidemment. Hein. Et à contrario, on a déjà fait une grosse date où on avait plus de 1000 personnes, on avait un millier de personnes en face de nous, où quand tu rentres sur scène, moi je suis le premier qui rentre sur scène normalement, et là t'as les gens qui hurlent quand t'arrives sur scène, et ça c'est un truc, ça c'est fou furieux.
On a vu que vous aviez une de vos pochettes d'album qui était très jolie, donc c'était celle de The Withering.
Oui, on peut en parler.
On peut en parler.
On a vu qu'elle a été faite avec de l'IA.
Absolument.
Absolument, voilà.
Et ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le referiez
s'il y avait
à le refaire
ou...
On le referait pas.
Non.
Alors, c'est arrivé avant que la bulle
de l'IA générative n'explose.
Ah, c'est bien. En fait,
mais bon.
Merde. Avant que ça explose, en fait, on a sorti notre EP. Ça n'avait pas encore éclaté complètement. Il n'y avait pas tout ce buzz autour de...
Et tout est polémique.
Tout est polémique. C'était de la curiosité au départ.
Ah ouais, moi je me suis dit, tiens, l'outil est fabuleux. Sans se poser de questions.
Voilà.
Et c'est là où je vais dire que moi, j'ai fait une erreur, une vraie erreur, c'est de ne pas me poser de questions sur l'outil. Et j'avais déjà dit à certains chroniqueurs qui avaient chroniqué l'EP, je lui ai dit, je ne le referai pas. Et on ne le refera pas. On n'utilisera plus jamais d'intelligence artificielle, que ce soit dans nos visuels ou dans nos ou dans la musique en elle-même, parce que maintenant, l'intelligence artificielle fait aussi, ouais, son trou dans la musique, malheureusement. Après, chacun a son... Pareil, dans le groupe, on a tous un avis spécifique sur l'IA en tant qu'outil ou en tant que quoi que ce soit. Moi, personnellement, je refuse toute utilisation de l'IA générative, quelle qu'elle soit. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Chacun en voit les utilités où elles sont. Et voilà. Donc, on ne l'utilisera pas. Et maintenant, on a une graphiste peintre qui a fait nos dernières pochettes de nos derniers singles. Et qu'on... Et voilà, et qu'on...
Et qui on retravaillera. Et qui a une commande dans la
tête. Et voilà, et qui a une commande dans la tente. Et qui on retravaillera.
Pour la fin.
C'est très joli, les dernières photos non, du
coup. Les derniers singles. Ouais, elles sont top. Magnifique. Et c'est pour ça qu'on va retravailler avec la même peintre.
Ma dernière question, c'était comment vous vous imagineriez dans 10 ans? Par exemple, si vous habitiez quelque part d'autre ou ce genre de choses.
Déjà, on aurait mal au dos. On a déjà mal au dos. Dans 10 ans, au niveau du groupe, j'en ai aucune idée de ce que ça peut donner.
On n'aura pas bougé, enfin, du moins toi et moi, je pense que...
Non, je pense pas qu'on aurait bougé de déménagement ou trucs comme ça. On a nos familles. Je pense qu'on peut s'estimer heureux si dans 10 ans le groupe existe encore. Ouais. Parce que même dans un an, on peut s'estimer heureux que le groupe existe encore. Chaque année est toujours un truc à nos âges. On reste un groupe amateur. On a tous des vies à côté. Et si le groupe existe encore, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accident de vie parmi nous. Donc, ouais. De ce qu'on peut souhaiter.
Le groupe survit aux prises de tête, déjà. C'est déjà
pour l'instant, il survit aux prises de tête, voilà, parce que comme dans tout groupe, il y a des difficultés de communication ou ce genre de choses. Et ça, dès qu'il y a de la création en jeu, c'est toujours un peu compliqué. Mais on n'y survit plus jusqu'à présent, donc on verra. Reposez la question déjà l'année prochaine, si vous pas.
Mission métal.
Bon, c'est violent quand tu regardes comme ça, un pogo. En fait, pour moi, c'est vraiment... C'est sauter sur les gens tout en étant étonnamment poli. C'est comme ça que je définirais la violence dans le métal.
Bah, il y a un côté violent quand même. C'est pas de la musique douce, c'est à la fois violent et apaisant pour moi. Je me rappelle plus jeune, je faisais des siestes en écoutant du métal.
Ah, c'est sûr qu'il y a une image violente, il y a une imagerie violente. Voilà, mais il y a beaucoup de clichés aussi parce qu'effectivement des gens qui connaissent pas. Ils vont dire que voilà, les groupes de métal, c'est du satanisme. C'est un peu les clichés qui reviennent souvent.
Mission métal.
Maintenant, nous allons parler du métal au cinéma. Car oui, même si vous ne l'avez jamais vraiment remarqué, le métal est bien présent dans le 7e art. Vous avez donc, sans forcément le savoir, écouté plus de métal que vous ne le pensiez. Depuis l'apparition du son au cinéma avec le chanteur de jazz Alan Crosland en 1927, et même avant avec les orchestres lors des projections,
la musique est primordiale à la construction d'un film et à sa mise en scène. Le métal, émergeant au début des années 70, arrive donc au cinéma avec Black Sabbath dans le film d'horreur The Wicker Man de Robin Hardy, sorti en 1973. La musique métal, comme tout genre de musique, a ses propriétés et est donc utilisée dans différents contextes dans le but de susciter un sentiment précis en fonction du dit contexte. Si c'est pas clair, je vous donne des exemples avec un petit top 5. En top 5, j'ai mis Gremlins 2 de 1990 de Joe Dante, classé comme horreur et comédie fantasy. On y entend la musique Angel of Death de Slayer. Lors de cette séquence, le gremlin boit une potion le transformant en araignée géante. Les gremlins sont des rebelles, la musique métal colle donc dans le contexte. Et le métal offre une idée plus violente de la transformation présente, plus dangereuse. On peut citer en contre-exemple la transformation de Cendrillon dans le film de Walt Disney, ou encore celle de Fiona dans Shrek le premier, ayant des musiques plus douces et mélodieuses, voire féeriques, donnant une atmosphère plus douce et majestueuse. En top 4, j'ai mis Persepolis de 2007, film d'animation genre guerre et drame, réalisé par Vincent Parnaud et Marjane Satrapi, adapté de la bande dessinée du même nom. Le morceau est composé pour le film par Olivier Bernet. Dans cette séquence, après avoir illégalement acheté une cassette de métal et menti pour la garder ensuite, la fillette écoute la dite cassette en mimant une guitare avec une raquette. Ici, le métal propose une vision de rébellion contre un ordre établi. En top 3, j'ai mis Terminator 2, qui est un film d'action et de SF, réalisé par James Cameron en 1991. Dans celui-ci, on peut entendre You Could Be Mine des Guns N' Roses. On entend cette musique lorsque les enfants sont en moto. Il s'agit d'enfants rebelles, de véritables punks dans l'âme, différents des autres. La musique est intradiégétique à la séquence et s'entend lorsque les enfants à moto sont visibles à l'écran. La musique disparaît lorsque nous ne pouvons plus les voir, dans le but de montrer qu'ils se font remarquer par leurs différences et qu'ils le hurlent. Ils rompent le calme du quartier par leur excentricité. Ils ne se cachent pas et n'ont pas honte, bien au contraire. Plus loin dans le film, nous avons droit à une citation « Terminator fait tomber des roses, une arme à feu à la main, Guns N' Roses ». En top 2, j'ai mis Funny Games de Michael Haneke, classé policier et drame réalisé en 1997. On peut y entendre Bonehead de Naked City. On l'entend lors de la scène d'introduction, en voiture, la famille écoute une musique d'opéra intradiégétique à la scène tout le long de la séquence. Puis, la musique que vous venez d'entendre se lance sans transition, plaçant alors le titre du film en gras et en rouge, sans changer le jeu d'acteur. Cette musique-là est extradiégétique, seuls nous pouvons l'entendre. La famille, elle, écoute toujours de l'opéra. Ici, le métal propose un contraste dans le plan, les parents sont calmes, enfants innocents, dans l'ignorance de la suite des événements, et annonce la violence à venir comme une mise en garde aux spectateurs. Et en top 1, j'ai mis Lost Highway de David Lynch, sorti en 1997, classé comme horreur et noir. On peut y entendre la musique Rammstein du groupe Rammstein. Rammstein. Ein Mensch brennt. La chanson démarre pendant une scène intime, mais elle n'a rien de romantique. Au contraire, elle crée un contraste brutal. Le son industriel et froid et mécanique de Rammstein transforme le moment en quelque chose de dérangeant et de psychologiquement violent. Cela vient installer une tension malsaine dans le couple, souligner une forme de déconnexion émotionnelle et annoncer les thèmes centraux du film, la jalousie, la paranoïa et l'identité fragmentée, très propre au travail de David Lynch.
Mission métal.
Riff. Motif de guitare répétitif, souvent central dans un morceau. Breakdown. Passage plus lent et lourd, souvent fait pour pogoter.
Cette musique, vous la connaissez peut-être, c'est l'un des jeux précurseurs des années 90, Doom. La première trace de métal dans le jeu vidéo date des années 80. À cause des limitations techniques de l'époque, c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Sorti en 1994, Doom est l'un des premiers jeux ayant introduit intégralement le métal dans sa BO, qui est très inspiré des groupes comme Metallica, Pantera et Slayer. Malgré l'importance du métal dans sa BO, cela reste très niche et ça n'a pas vraiment d'influence sur le gameplay. C'est pour ça qu'un jour, des développeurs ont eu l'idée de faire un jeu où l'on joue de la musique. Alors Guitar Hero est apparu en 2005. Ça a permis à énormément de monde, fans de musique, de se mettre dans la peau d'un guitariste de rock metal. D'ailleurs, en parlant de passion, est-ce que vous connaissez Brutal Legends ? Si pour certains ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a été présenté et testable pendant l'édition 2009 du Hellfest. Pour ceux qui ne connaissent pas, Brutal Legends est un jeu sorti en 2013 dans lequel tout est lié au métal. Que ce soit l'environnement, le chara-design, les musiques, le gameplay, même jusqu'au casting des voix. Parmi ces voix, on y retrouve dans l'introduction du jeu et qui incarne le personnage principal, Jack Black, un acteur et chanteur principal du groupe rock acoustique Tenacious D. On y retrouve aussi Lita Ford, chanteuse et guitariste hard rock, qui accompagne le protagoniste, Ozzy Osbourne de Black Sabbath, dans le rôle du guide du métal, et bien d'autres encore comme Lenny Kilmister de Motorhead. Faut savoir qu'ils n'ont pas simplement doublé les personnages, mais que les personnages sont une copie physique d'eux-mêmes. On s'aperçoit qu'avec le temps, l'introduction du métal dans l'univers du jeu vidéo évolue. On passe de Doom avec des musiques d'ambiance à Brutal Legends qui s'en inspire pour créer un jeu à part entière. L'autre façon d'introduire le métal dans le jeu vidéo est de créer des groupes virtuels, comme Pentakill, un groupe de heavy metal dans l'univers de League of Legends. Faut savoir que LoL est sorti en 2009 et n'a pas arrêté d'expérimenter différentes choses. C'est comme ça que le groupe Pentakill est arrivé en 2014, composé de 5 des 170 champions qui sont les personnages jouables membres du groupe. Le studio Riot Games a retravaillé leur look pour se rapprocher le plus d'un vrai groupe de métal. Pentakill est apparu avec le premier album Smite and Ignite et a par la suite sorti deux autres albums. Dans cet extrait, on peut y retrouver la voix de Jørn Lunde, un chanteur norvégien de hard rock et de heavy metal. Mais dans d'autres morceaux, on peut y entendre la voix de Nora Luimo, une chanteuse finlandaise, ancienne membre du groupe Black Beast. Et parmi les instrumentalistes, il y a Ren Holder qui a travaillé entre autres avec Nine Inch Nails et A Perfect Circle, et Tommy Lee, batteur et cofondateur du groupe Motley Crue. Ça permet aux joueurs déjà présents de découvrir l'univers du métal, ou d'attirer les fans de métal sur leurs jeux. Les jeux vidéo ne sont pas les seuls à s'attaquer au métal. Récemment, un crossover entre le jeu de cartes Magic the Gathering et Iron Maiden est apparu, rééditant certaines cartes déjà existantes, mais avec cette fois-ci les pochettes d'albums sur ces dernières. Faut savoir qu'aujourd'hui, avec tous les jeux vidéo et les genres de musique existants, il y a des mix très intéressants, et même les fans s'amusent à mélanger les genres. En 2020, un crossover est apparu lors de la sortie du jeu Doom Eternal et Animal Crossing New Horizon, mixant le genre musical des deux jeux et ayant comme voix principale celle de Marie, personnage emblématique d'Animal Crossing.
Mission Métal.
Premier souvenir, c'est sur BO3 avec la map Kino der Toten 115 de Elena Sielman. Vieux souvenir.
Mission Métal, le podcast de la mission locale avec la Rodia et Sparse Magazine.